Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Salutations spéciales à ceux qui découvrent cette émission. Toujours pas d'actualité musicale pour l'instant, raison pour laquelle nous avons commencé la semaine dernière un cycle d'émissions consacré à Ludwig van Beethoven, parce que l'actualité en 2020, c'est aussi le 250e anniversaire de la naissance du grand compositeur allemand. Né en décembre 1770, il n'est pas simple d'appréhender la vie et l'œuvre de Beethoven en quelques émissions, ni de donner la mesure de tout ce qu'il a apporté à la musique savante européenne. Nous nous y efforçons tout de même à notre humble niveau. Pour le premier numéro de cette série, nous avons parcouru la période qui va de l'enfance et l'adolescence de Beethoven aux années 1804-1805, déjà riche en événements, en rencontres et en chefs-d'œuvre bien sûr. Lors de ce deuxième volet, nous allons poursuivre avec la période allant de 1806 à 1818-1819, la première moitié ayant correspondu à des années de grande création, certainement les plus fécondes pour Beethoven, durant lesquelles les chefs-d'œuvre vont encore s'enchaîner. Pour m'assister dans cette nouvelle immersion beethovenienne, j'ai le plaisir de retrouver mes deux complices, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie, président du Festival Musique au Palais et vice-président des Clés de Saint-Pierre. Nous voilà partis tous les trois pour un retour arrière vers les années 1806-1819.
Mélomanie. Retour arrière.
Nous nous étions donc arrêtés la semaine dernière aux années 1803, 1804, 1805, celles qui ont suivi la profonde crise de désespoir de 1802, débouchant sur le fameux testament d'Heiligenstadt. Beethoven remonte du gouffre et consacre maintenant toute son énergie à la création. C'est à cette époque qu'il décide de se confronter à un genre jamais abordé jusqu'alors, l'opéra. Alors, pourquoi précisément à ce moment-là? On peut se dire que si l'on veut être l'égal de Mozart, de Handel, il faut composer un grand opéra, mais il semble que le grand inspirateur puisse aussi être l'Italien Cherubini, que Beethoven rencontre d'ailleurs en 1805 et pour qui il ne cachait pas avoir une grande admiration. Est-ce que vous avez une théorie là-dessus ?
Oui, le genre opéra doit absolument être abordé par tout compositeur digne de ce nom, en quelque sorte, je mets des guillemets. Et donc Beethoven, s'il en soucie. Mais il faut dire qu'il a composé cet opéra Fidelio, qui est aussi un Singspiel, l'équivalent de ce que l'on appelle en France l'opéra comique. Alors comique, c'est parce qu'il y a des dialogues, il y a de la comédie qui se superpose, qui s'interpose entre les passages musicaux. Donc ce Singspiel est l'œuvre unique d'opéra, même s'il y a eu d'autres tentatives, notamment il s'est intéressé à l'œuvre de Macbeth, il s'est intéressé évidemment à l'œuvre de Faust, de Goethe, mais bon, c'est cette œuvre qu'il a choisie. Alors pourquoi ? Eh bien, apparemment, c'est à cause du livret. En fait, le livret, il est tiré d'une pièce du français Jean-Nicolas Bouilly, pièce intitulée « Léonore ou l'amour conjugal ». Et cette pièce, ce qui probablement a inspiré Beethoven, c'est qu'elle découle d'un fait divers authentique de l'époque révolutionnaire française pendant la Terreur, et selon laquelle une femme travestie en homme est engagée comme geôlier d'une prison et qu'elle parvient à libérer son mari qui a été incarcéré. Et donc, la dramaturgie de l'œuvre, elle parle de liberté, de fidélité, d'idéalisme, de justice. C'est donc une valeur universelle à laquelle Beethoven est particulièrement sensible. On sait qu'il était d'esprit républicain et même révolutionnaire, et donc il a été très sensible au sujet, et donc il a créé cette œuvre, mais alors qui a été remaniée plusieurs fois, puisque la première version, d'ailleurs qui s'appelait Léonore, et qui était très longue, a été un véritable échec, puis il l'a remaniée en 1805, 6, 14, pour aboutir à ce que l'on connaît maintenant, la dernière version, a changé de titre, puisqu'elle s'appelle Fidelio, en référence à cette vertu que Beethoven appréciait particulièrement.
Et donc, la fidélité de cette femme,
voilà,
qui va libérer son mari, dont le prénom, le véritable prénom, est Léonore.
Léonore, oui, et le mari se prénomme Florestan. C'est vraiment une œuvre très particulière, avec des moments très forts, notamment le grand air que nous entendrons de Léonore, puis il y a le début du deuxième acte dans la prison, le grand air de Florestan, puis il y a un quatuor magnifique au premier acte entre les principaux personnages. Il y a peut-être quelques maladresses. Il a voulu à tout prix introduire un couple léger, Marceline et Iachino. Alors, évidemment, ça paraît un peu en dehors de la dramaturgie, mais il fallait balancer un peu, ne pas rester dans le drame de manière perpétuelle. Et donc, voilà, une œuvre tout à fait intéressante et dont je voudrais rappeler qu'elle a été donnée à la Halle aux Grains en 1977 dans une production très particulière qui était mise en scène par Georges Lavelli et dirigée par Michel Plasson. Et donc cette production vraiment a fait sensation à l'époque, notamment par sa mise en scène tout à fait inventive de Georges Lavelli. Ça a été repris d'ailleurs à la Halle aux Grains plusieurs fois au cours des saisons suivantes.
Bon, ça, c'est la piste du livret. Serge Krzyzewski, il y a peut-être une autre inspiration, et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est Cherubini. Est-ce que ça pourrait être l'autre piste, en tout cas la piste musicale?
Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bon, Beethoven pensait à un opéra, cherchait aboutir, en particulier parce qu'il cherchait vraiment à se faire connaître. Hein. Il était dans une phase comme ça encore très ascendante dans les années 1802-1803. Sa surdité n'était pas encore complètement confirmée, on va dire, même si elle débutait, elle commençait à le gêner. Effectivement, il y avait régulièrement des opéras comiques qui étaient montés à Vienne. Il a entendu l'opéra Lodoïska en 1802, donc de Cherubini, et il a eu l'occasion de le rencontrer. Et il aurait dit que, bon, voilà, quand on lui a demandé quel était le plus grand compositeur vivant, après avoir réfléchi un petit peu quand même, il aurait dit Cherubini. Maintenant, évidemment, avec le recul, c'est très très étrange parce que bon, des compositeurs comme Cherubini sont tellement loin de ce que Beethoven a pu écrire. Alors, il est certain aussi que Cherubini a une stature que Beethoven ne pourra jamais avoir parce qu'il a été malheureusement socialement un petit peu grillé par ses différents handicaps. Cherubini a été directeur du Conservatoire de Paris, enfin, a été une figure importante qui a écrit précisément dans les domaines où Beethoven n'a pas été spécialement marquant. Il a écrit beaucoup d'opéras et d'opéra comique. Et bon, Beethoven, voilà, il y a certains éléments de sa musique qui l'ont frappé, le côté un peu solennel, un peu hiératique, et puis peut-être voilà, le personnage. Alors, Singspiel, on peut quand même préciser que oui. Carmen est un opéra comique. On oui. sait comment ça se termine. Oui. C'est drôle au milieu, mais finalement, bon. Là, il y a une fin heureuse avec le sauvetage. C'était d'ailleurs une mode à l'époque. Il y avait les opéras de sauvetage où on sauvait un héros, un prisonnier, une personne.
Voilà, donc... Unique opéra de Beethoven, il y aura d'autres projets qui n'aboutiront jamais.
Alors, de la part de Beethoven, il y a certaines œuvres qu'il aimait beaucoup, dont il reconnaissait vraiment être très satisfait. Celle-ci, il a dit qu'il n'y avait pas d'enfant qui lui avait coûté autant de peine, autant de travail que Fidelio. Effectivement, la reconnaissance de Fidelio avec une création vraiment à succès ne date que de 1814. Donc, il y a eu une période très trouble où il a retravaillé, il est revenu, voilà. Et il faut dire que, ça on en parlera aussi avec la 6e et la 5e symphonie, les créations d'œuvres de Beethoven, il faut le reconnaître, souvent ça s'apparente à des massacres. Hein. Les conditions apparemment, parce qu'en plus c'était pendant l'arrivée des troupes napoléoniennes, enfin il y avait beaucoup d'officiers français dans la salle qui certainement devaient apprécier la musique, mais enfin c'était pas forcément un public qui était acquis à Beethoven d'emblée. Voilà, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait que la création de 1804 a été assez catastrophique, mais il fallait absolument y revenir.
Oui, il a repris donc en 1806 et la version de 1814. C'est seulement 1814 qu'il a un semblant de succès, pas un immense oui. succès, mais un succès quand même.
Oui, un succès quand même.
Mais je pense qu'entre-temps, il a laissé beaucoup de plumes, si on peut dire, oui. et qu'il n'a pas voulu y revenir, tout simplement, sans doute à cause de ça, puis il avait beaucoup d'autres
voilà,
choses.
Voilà, revenir à un autre projet d'opéra voilà. aurait été trop lourd, probablement, pour lui. Il a compris que ce n'était pas sa veine.
Voilà. Nous allons vous proposer d'écouter maintenant un extrait de Fidelio, le grand air de Léonore dont a parlé Serge Chosy, Abscheulicher vos Eils to In, chanté ici par la grande Jessie Norman.
Wir sind Zorn und
Abscheulicher Wohlstuhl, air de Léonard dans Fidelio, l'opéra de Beethoven, interprété par Jesse Norman, ce qui nous permet de rendre hommage au passage à cette magnifique chanteuse morte en septembre dernier. On referme cette unique parenthèse lyrique dans l'œuvre de Beethoven pour aborder maintenant un autre genre pour lequel il aura aussi beaucoup composé, le quatuor à cordes. Il y en a 16, presque 17 au catalogue, dont 3 pour la seule année 1806, les 7e, 8e et 9e, tous dédiés au prince Razumovsky, un des premiers mécènes de Beethoven, commandité de ces trois quatuors. Pourquoi a-t-il autant exploité ce genre du quatuor à cordes? Qu'est-ce qui lui a apporté, Serge Krzyzewski?
Alors, on dit en général, enfin depuis que ce genre s'est installé dans le cœur des compositeurs, c'est-à-dire à partir de d'abord Boccherini, puis Haydn et Mozart, que le quatuor à cordes représente un petit peu l'équivalent du quatuor vocal, les quatre voix, avec des instruments auxquels on peut faire beaucoup plus de choses techniquement et au niveau vélocité que des voix. Donc, il y a cette dimension comme ça vocale, il y a cette dimension aussi expérimentale de recherche que Haydn avait déjà très bien comprise et utilisée. Beethoven s'empare de ce genre. Pour commencer donc avec l'opus 18, il écrit donc 6 quatuors aux environs des années 1800-1801, et puis il fait après cela la connaissance du violoniste Ignaz Schuppanzig, qui était un des plus grands violonistes de l'époque à Vienne. Bon, il devient son ami et il écrit véritablement en pensant à Schuppanzig, et il a fait l'occasion aussi de faire la connaissance de Razumovsky. Alors Razumovsky était l'ambassadeur de Russie à Vienne. Tous ces princes étaient des princes éclairés, enfin ces aristocrates évidemment faisaient la guerre, mais il jouait aussi la plupart du temps d'un instrument, du piano, du violon. Ils faisaient tous beaucoup de commandes aux compositeurs et Beethoven a été le protégé successivement de beaucoup d'entre eux. Le groupe des trois quatuors Razumovsky est très remarquable parce qu'effectivement, il inaugure ce qu'on appelle la période du milieu, c'est-à-dire qu'il y a trois quatuors écrits assez rapidement qui incluent des thèmes russes, notamment le final du quatuor 7, également dans le quatuor numéro 8, mais c'est surtout des quatuors qui prennent de nouvelles proportions, qui installent véritablement Beethoven dans son style beaucoup plus développé. On a parlé la dernière fois de la sonate Waldstein et de la symphonie héroïque. Il semblerait que Razumovsky considérait que ce quatuor 7 pouvait être l'héroïka du quatuor à cordes. Alors un musicien italien qui lui montrait la partition en lui disant « Mais est-ce que vous avez pensé si c'était jouable ou pas ?»
Oui, j'avais posé la question, voilà. Parce qu'ils étaient réputés comme
injouables. Voilà, il lui répond « Mais écoutez, est-ce que vous croyez que j'ai pensé à vous et à votre violon ? C'est plutôt vos successeurs. » Voilà. Donc ça indique aussi que Beethoven avait clairement la conscience que ses œuvres étaient faites pour autant une postérité que le présent et les musiciens de l'époque. Hein. D'ailleurs, la vie musicale à Vienne était ce qu'elle était, elle était importante, mais en réalité, pour tout ce qui était le concert public, hein, en particulier les grandes, on en reparlera tout à l'heure, les grandes manifestations avec les symphonies, etc., les concerts symphoniques, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il y avait beaucoup de concerts, justement, chez les aristocrates en petite formation. Il y avait parfois, évidemment, il y avait beaucoup d'opéras et d'opéras comiques, on l'a dit, au théâtre an der Wien et puis dans les différents endroits. Mais il n'y avait bien sûr pas du tout encore, peut-être même comme en Allemagne déjà, et comme il y aura après tout au long du 19e siècle, ces associations musicales qui organisent des concerts devant un public de plus en plus nombreux, dans des salles de plus en plus grandes. Ça viendra après. En tout cas, ces quatuors, et le 7 en particulier, est absolument splendide. Alors évidemment, il a des proportions, c'est comme l'héroïque. Maintenant, on passe globalement à des proportions de 40-45 minutes parfois, avec de très longs développements, également des mouvements qui s'enchaînent. Hein. Le mouvement 3, qui est un magnifique adagio, et le 4 s'enchaînent. Ils sont juste collés par un tri, dont on reparlera tout à l'heure dans la sonate Hammerklavier. Voilà, magnifique mélodie de violoncelle au début, le violoncelle qui introduit d'ailleurs 3 des mouvements sur 4 et qui est juste accompagné comme ça d'une batterie de notes répétées qui évoque aussi la sonate Waldstein. Voilà, enfin je vous laisse écouter cette mélodie qui part du grave, qui passe au premier violon et qui se développe de façon comme ça un petit peu dans l'attente, dans une sorte de suspense pendant une vingtaine de mesures avant d'arriver à une...
Eh bien, pour illustrer tout ce que vous venez de nous dire, nous allons écouter un des 3 quatuors à cordes composés en 1806, tous dédiés au prince Razumovsky, leur commanditaire. Il s'agit justement du 7e avec son premier mouvement Allegro, et c'est une version du quatuor ébène. Thank you. Le premier moment Allegro du Quatuor à cordes numéro 7 de Beethoven, interprété par le Quatuor Eben, et toujours en 1806, la florissante année 1806, puisqu'on y trouve aussi bien la 4e symphonie, le 4e concerto pour piano et le concerto pour violon, une œuvre célèbre, souvent jouée, mais qui restera la seule du genre pour Beethoven. Est-ce qu'on peut en déduire que le violon est un instrument qui l'inspirait moins que les autres ?
Oh, certainement pas, mais c'est vrai, c'est un peu bizarre qu'il ait composé 5 concertos pour piano, un seul concerto pour violon, mais pourtant qu'il a transcrit aussi pour piano. Donc en fait, il y a un 6e concerto pour piano qu'on joue très rarement, hein. Mais donc effectivement, on ne sait pas, pourtant le violon est à l'œuvre dans ces magnifiques quatuors, hein. Donc je ne sais pas ce qu'en pense Serge.
Et dans ces 10 sonates pour violon et piano.
Voilà, il y a 10 sonates, en et plus... puis après, voilà, il y a quelques endroits, on aura peut-être le plaisir d'entendre dans la Missa Solemnis des magnifiques solos de violon. Une des hypothèses, c'est la perfection, tout simplement. Peut-être que Beethoven se sentait tellement content de ce concerto sublime, effectivement, qui est depuis toujours, depuis sa création, reconnu comme un sommet du répertoire de violon. Voilà, alors ça ne veut pas dire qu'il considérait... Enfin, pour les concertos piano, bon, il était pianiste lui-même, donc il avait envie de peut-être, là, le violon, c'était moins son instrument aussi, hein,
oui,
bon,
mais
peut-être, je sais pas.
Là encore, une œuvre qui avait été très froidement accueillie à sa création, une de plus.
Ben oui, il y a des choses étonnantes, mais après tout,
il était
ça
dit,
n'est pas la seule. Hein.
Les critiques, il était incohérent. Cette œuvre est incohérente.
Ah oui, mais la musique de Beethoven a beaucoup déconcerté de nombreux critiques de l'époque et de nombreux commentateurs. Hein, donc,
parce qu'il y a un thème central qui revient, je crois que c'est 40 fois, cet aspect répétitif. Les gens trouvaient que c'était trop répétitif, que le violon, finalement, il était sous-exploité.
Bon, alors, il y a même Saint-Saëns qui trouvait que le concerto de Brahms manquait d'idées. Bon, il y a parfois des jugements à chaud comme ça qui sont très, très étranges.
Ça peut être ça aussi qu'il a un petit peu écœuré d'y revenir. Bon, bah, puisque vous
alors,
ne prenez rien à ma musique.
Alors, cela dit, heureusement, il y a beaucoup de créations d'autres œuvres qui ont été massacrées et ça ne l'a pas empêché de continuer à écrire pour les symphonies en particulier.
Fort heureusement. Alors, il semblerait aussi que ce soit une sorte de poème d'amour dédié à Thérèse de Brunswick. Hein. On va parler de ses désillusions amoureuses, il y en a eu beaucoup, mais il y en a beaucoup aussi qui ont inspiré de ces magnifiques chefs-d'œuvre.
Il y avait eu les deux romances pour violon écrites beaucoup plus tôt, qui sont très jolies aussi, mais bon, ce concerto... Oui, alors la commande par Clementi d'une version pour piano, ça aussi c'est très étrange, je pense qu'il n'a jamais vraiment... c'est probablement commercial. Il y a aussi des choses que Beethoven a écrites...
Nous allons l'écouter, cet unique concerto pour violon de Beethoven, son 3e mouvement, un rondo très célèbre, ça va tous vous dire quelque chose, en voici une version, et c'est Yehudi Menuhin qui tient le violon. Le rondo, le 3e mouvement du concerto pour violon de Beethoven, interprété par Yehudi Menuhin, le seul don que le grand compositeur allemand ait composé. En revanche, il y a un genre qu'il a beaucoup investi et qu'il a porté très haut, c'est la symphonie bien sûr. Entre 1806 et 1808, il va en composer 3, les 4e, 5e et 6e. On va s'y attarder avec vous, mais avant cela, encore un petit extrait qui va lui aussi dire quelque chose à tous nos auditeurs. Écoutez ça. vous aurez sans doute reconnu le tout début de la 5e symphonie de Beethoven, ici dans une version de l'Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Herbert von Karajan, avec ses quatre notes célèbres, 3 sol, 1 mi bémol, 3 brèves, 1 longue, ce motif qu'il va reprendre presque à l'infini lors du premier mouvement en le déclinant de toutes les manières possibles. Alors Serge Krichevski, on croit réside l'originalité de cette pièce, cette 5e symphonie, et donc ce motif. C'est le rythme avant tout, c'est le travail, l'étude sur le rythme.
Alors c'est vrai que la dimension rythmique dans l'œuvre de Beethoven, enfin c'est un sujet particulièrement riche, particulièrement vaste, hein, parce que s'il y a vraiment un génie, un trait les plus spécifiques de son génie, c'est la dimension rythmique. Enfin, il a été capable donc à plusieurs reprises, pas seulement dans la 5e symphonie, mais aussi dans la 7e et dans le quatuor numéro 7 qu'on entendait. Le second mouvement commence par un thème, c'est 11 fois la même note. Et donc c'est le rythme, ce sont des thèmes rythmiques, c'est le rythme qui définit la couleur du thème. Il faut savoir qu'à cette époque, à l'époque donc à la fin du 18e, les thèmes avaient de plus en plus tendance à devenir des personnages. C'était des personnages, c'est-à-dire qu'il fallait un personnage avec du caractère, et on avait un caractère différent pour le second thème, qui était en général soit masculin, féminin, comme on disait, ou qui tranchait beaucoup. Mais la capacité à porter un souffle vraiment à travers le rythme, Beethoven a été vraiment un maître exceptionnel. Alors l'idée d'avoir un motif très court. Haydn déjà avait certainement transmis à Beethoven, et puis je pense qu'on a beaucoup dit que Beethoven avait beaucoup plus appris de Haydn en lisant ses partitions, en lisant ses œuvres, que par son enseignement direct. Beethoven est devenu un maître de ce qu'on appelait donc le travail, le développement, le travail thématique. Et là, on a cet exemple incroyable avec 7 minutes du premier mouvement de la symphonie. Alors, cette symphonie est peut-être une des œuvres les plus appréciées quand on fait des sondages, etc.
Oui.
Voilà.
Oui, oui. Ça revient très souvent.
Mais en réalité, c'est presque une œuvre qui est devenue mythique. C'est-à-dire, on parle de la 5e de Beethoven, mais est-ce qu'on parle surtout du premier mouvement? Est-ce que les gens connaissent le 2e, le 3e, le 4e autant? Alors, il faut dire que c'est même une œuvre qui a été élevée au rang de générique pour tout simplement Radio Londres. Là, on est bien sur Radio Présence, mais l'émission Les Français parlent aux Français, c'était sur fond de ce rythme que vous avez cité, Eric, donc 3 brèves, 1 longue. Ce rythme, c'est pas Beethoven qui l'a utilisé le premier dans une dimension comme ça structurelle. Il y a déjà dans un magnifique concerto, le 25e de Mozart, ce rythme dans tout le premier mouvement qui circule comme ça. Et bon, Beethoven l'a utilisé aussi dans le concerto que vous avez cité, le 4e, juste avant. On entend beaucoup ce rythme. Et après ça, des compositeurs comme Johannes Brahms et puis tous les grands compositeurs auront une référence à ce rythme. C'est vrai que également la tonalité de Do mineur, qui est la tonalité tragique, alors Beethoven lui-même aurait dit « Oui, c'est le destin, ainsi le destin frappe à la porte ». Donc, c'est devenu la symphonie du destin. Voilà.
C'est l'homme face à son destin.
L'homme face à son destin. Alors, sur ce que vous disiez tout à l'heure des créations, alors on peut dire que cette symphonie a été créée en même temps que la symphonie pastorale, dans un concert incroyable dans lequel il y avait aussi le concerto numéro 4, et qui a été apparemment... qui a rendu Beethoven absolument furieux, qu'il était malheureux du résultat. Alors je pense que ça, c'est un peu une constante dans l'œuvre de Beethoven, c'est-à-dire des œuvres qui sont mal créées, mal interprétées au départ, et puis qui après, rapidement, conquièrent vraiment le public international, hein, rapidement.
Alors, vous venez d'en parler, contemporaines de la 5e, elles ont bien été créées effectivement lors du même concert. La 6e, qui deviendra plus connue sous le nom de pastorale, on peut parler à son propos, sans exagérer, d'œuvres pré-romantiques, pour ne pas dire déjà romantiques, on va développer un peu cet aspect. Mais Serge Chaudy, racontez-nous ce fameux concert de création des deux symphonies 5 et 6.
Qu'il avait écrites en même temps, parce que c'est très fréquent, Beethoven écrit plusieurs œuvres en même temps, et parfois plusieurs œuvres du même genre en même temps.
Et là, pourtant, ce sont deux œuvres différentes. Hein, là,
justement, elles s'équilibrent. Elle s'équilibre probablement dans sa manière de composer.
Il y en a une, c'est l'homme face à son destin, en mineur donc, et l'autre, c'est l'homme face à la nature.
Oui, et l'harmonie de l'homme dans la nature, en quelque sorte. Alors, c'est incroyable, ce concert de création, c'était un concert marathon. Alors, on a quelques concerts qui durent de nos jours, mais les mélomanes d'aujourd'hui pourraient s'étonner de ce qui s'est passé pendant ce concert de création. Dans la première partie, il y avait tout d'abord une symphonie intitulée « Souvenirs de vie à la campagne », en fa majeur. Voilà, c'est donc la symphonie pastorale.
Déjà la campagne, oui, voilà.
Et puis ensuite, un air de concert à Perfido, chanté par une soprano. Puis le Gloria de la messe en ut majeur, qui date à peu près de cette époque. Le concerto pour piano numéro 4, dans lequel Beethoven était le soliste. Hein. Ça, ce n'était que la première partie. La deuxième partie comprenait la grande symphonie en ut mineur, donc la 5e, dont on vient de parler. Les Sanctus et Benedictus de la messe en ut majeur, d'autres extraits de cette même messe. Puis la fantaisie pour piano solo improvisée par Beethoven, ce sera son futur opus 77. Et enfin, la fantaisie fantasy chorale pour piano, chœur et orchestre. Alors vous imaginez.
Ça durait 4 heures.
La durée de ces concerts, c'était phénoménal. Hein. Ouais. Donc voilà, on ne voit plus ça de nos jours.
Hein. Oui, ça me fait penser, je veux dire, à ces menus de mariage il y a longtemps. Vous aviez oui. plusieurs entrées, poisson, deux plats de résistance.
Il y a 10 pièces.
Un plateau
repas.
De fromage, trois desserts, café, pousse-café, ça ressemble à ça.
Tout à fait, oui.
Alors cette sixième, cette pastorale, donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai manifeste romantique déjà avant la lettre?
Personnellement, je dirais que le manifeste romantique, c'est l'héroïque. Hein.
C'est
plutôt l'héroïque.
Oui.
Hein. Cela dit, il faut être très très prudent, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, dans l'épithète romantique pour Beethoven, hein, parce qu'il a été récupéré beaucoup par en particulier quelqu'un qui était présent à ce concert de création des Symphonies 5 et 6, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, qui a lui tout de suite perçu la grandeur, il était lui-même musicien, la grandeur de ses œuvres, hein. Alors, vraiment ça a été évident pour lui, et la cinquième et l'orage dont nous allons peut-être entendre parler, mais l'orage a été pour lui, sont des pièces romantiques. Et puis après ça, les romantiques vont tirer Beethoven vers le romantisme.
Alors, en revanche, est-ce qu'on peut pas dire que c'est un peu la naissance de la symphonie, de l'œuvre à programme?
Alors, la question de la musique à programme, c'est délicat parce que les programmes de Beethoven, d'une certaine manière, ils existent. Hein, c'est d'ailleurs peut-être un des premiers compositeurs à projeter un petit peu ses peines, ses pensées, ses réflexions. On parlait de Fidelio, hein, justement, dans ses œuvres. Mais il n'y a pas véritablement de programme. Il y a les sous-titres des mouvements. Voilà, il disait lui-même, hein, c'est plus évocation de sentiments que peinture sonore. On sait que la peinture, le programme, a été un des fers de lance des romantiques, effectivement. Hein. Après, on développera beaucoup ça.
Oui, c'est une sorte de grand poème symphonique, hein, en quelque sorte.
Oui, alors le poème symphonique, il n'est pas séparé en mouvement, il est d'une traite.
D'une traite, oui. Alors, dans cette symphonie pastorale, vous l'avez cité, il y a un extrait célèbre, l'orage, et j'espère que parmi vous, personne n'a peur des orages, parce qu'on va écouter celui de la pastorale dans une interprétation de l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Giovanni Antonini. L'orage, extrait de la symphonie pastorale, la sixième composée par Beethoven dans une version de l'Orchestre National du Capitole, dirigée par Giovanni Antonini. Et alors, en parlant d'orage, je vais quand même solliciter un peu Serge Chosy, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais vous avez une carrière de scientifique, d'universitaire, et votre spécialité, c'était les orages.
Absolument, oui, les orages dans la météorologie générale. Et donc, l'orage a beaucoup inspiré les musiciens, hein. C'est pas Beethoven le premier. Hein.
Vivaldi, les artistes en général,
les peintres. Mais les musiciens, il y a énormément de musique d'orage dans toute l'histoire de la musique. Et donc, dans ce passage-là, Beethoven a beaucoup observé. D'ailleurs, il se promenait beaucoup dans la nature. Hein, et apparemment, il a beaucoup observé. Alors, il y a une chose qui m'amuse beaucoup, c'est qu'on sait maintenant que la foudre est provoquée par l'électrisation des nuages et que cette électrisation, elle est provoquée par la précipitation. Et quand on écoute avec attention le développement de ce mouvement, on se rend compte qu'il évoque d'abord la pluie, puis le vent, et la foudre et le tonnerre ne viennent qu'après. Donc, ce qui correspond tout à fait à la physique de l'orage. Bravo Beethoven, c'était un scientifique en musique, en quelque sorte.
Donc, un fin observateur de la nature et des phénomènes naturels. Oui. En parlant d'orage, on peut rappeler que les relations de Beethoven avec ses mécènes furent parfois orageuses, justement, notamment avec le prince Lichnowsky. Il y a une citation célèbre à son propos.
Oui. Alors, bon, le prince Lichnowsky l'a beaucoup soutenu, l'a beaucoup aidé, mais il a eu un moment de sa vie, un petit conflit avec lui, et à la suite de ce conflit, il lui a écrit cette phrase: « Prince, ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance, ce que je le suis par moi. Des princes, il y en a, et il y en aura encore des milliers, il n'y a qu'un Beethoven. »
Voilà. Ça s'est envoyé, comme on dit.
Et je pense que s'il y a quelque chose de véritablement romantique chez Beethoven, c'est ça. C'est cette posture d'artiste comme ça, qui affronte les éléments, évidemment, sa surdité, qui affronte sa solitude et ses difficultés de sociabilité, et qui affronte, qui revendique son génie solitaire en face de
ce qui lui en fera perdre certains, justement.
Mais il considère qu'il a une mission et que sa mission artistique est très importante.
Oui, mais c'est-à-dire, c'est plus du tout comme même jusqu'à Haydn et jusqu'à... C'est plus du tout l'artiste qui est au service des...
Exactement.
Il pouvait se le permettre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est sûr que son génie lui a permis, l'a protégé.
Nous allons quitter la symphonie pour revenir au concerto et au concerto pour piano, l'instrument de prédilection de Beethoven. En 1809, il compose le cinquième et dernier, qui sera plus tard appelé l'Empereur. Et ce n'est pas l'initiative du compositeur d'ailleurs. On pense que c'est parce que c'est le plus grand, le plus abouti de tous ces concertos. Est-ce que c'est votre avis, Serge Krzyzewski, est-ce que c'est le plus abouti des cinq?
J'aurais tendance à vous dire non. Enfin, abouti, bien sûr qu'il est extrêmement abouti. C'est une œuvre de la grande maturité de Beethoven. C'est pas celui qui va le plus droit à mon cœur. Moi, j'ai une faiblesse aussi pour le quatrième, comme Serge Chosy. Oui. Mais c'est un très grand concerto. Il y a un mouvement lent magnifique. Comme toujours chez Beethoven, c'est plein d'idées. Ce concerto qui débute par la cadence du piano. Enfin, comme on a eu au début de la cinquième symphonie, c'est-à-dire la musique commence et elle s'interrompt immédiatement. Il y a une question qui est posée tout de suite là. L'orchestre commence par un accord et le soliste entre. On entend tout de suite ce qui était encore assez rare, même si dans le quatrième, c'est le piano lui-même qui introduit la musique. Mais une grande œuvre après qui, malheureusement, sonne un peu le glas, disons, des grands projets de concerto pour piano de Beethoven, puisque après ça il aura un début d'un sixième concerto, mais il ne terminera pas, et puis surtout il commence vraiment à être extrêmement gêné par sa surdité et il ne jouera plus, en tout cas en public, dans des œuvres symphoniques.
Alors, il y a des rythmes assez martiaux là, dans ce concerto, et il l'a composé, c'était pendant le siège de Vienne.
Wagram, voilà. Bataille de Wagram, qui était tout proche, il entendait, et malheureusement... Les coups de canon le déstabilisaient, c'était effrayant pour lui, probablement avec déjà des acouphènes naturellement, les coups de canon n'étaient pas nécessaires.
Il y a beaucoup de versions célèbres de ce cinquième concerto Empereur. J'ai choisi de vous faire écouter encore celle d'Evgeny Kissin, avec le London Symphony Orchestra, dirigé par Colin Davis. C'est le troisième mouvement de cette pièce, un rondo. Le rondo, troisième mouvement du cinquième concerto pour piano Empereur de Beethoven, interprété par Evgeny Kissin, accompagné par le London Symphony Orchestra sous la direction de Colin Davis. Et pour rester dans le piano, signalons aussi que Beethoven est l'auteur de 7 trios pour piano, violon et violoncelle. Là aussi, Serge Krichevski a un type de formation qu'il affectionnait tout particulièrement et pour lequel il a beaucoup composé.
Oui, il a beaucoup composé. Alors, c'est une formation qui a déjà été mise à l'honneur très, très largement par Joseph Haydn, qui a écrit des très beaux trios qu'on joue moins, enfin, qu'on connaît un tout petit peu moins. Mais là, effectivement, les trios de Beethoven ouvrent autant sur la suite, hein, puisqu'il va y avoir bien après lui, cette forme va trouver encore des sommets avec les deux trios de Schubert, les trios de Brahms, essentiellement à l'époque romantique. Hein. Il y a aussi le trio de Ravel qui est une œuvre magnifique, mais c'est vrai que bon, ce trio à l'Archiduc, qui est intéressant, donc dédié à l'archiduc Rodolphe, qui aurait préféré apparemment qu'on lui dédicasse le sixième, le précédent qui est très beau aussi, le Geister Trio, Trio des Esprits. Là aussi, hein, un trio pour une pièce qui normalement ne dépassait pas 20-25 minutes. Là, on a un trio qui fait 40 minutes en 4 mouvements. Les premiers et deuxièmes mouvements réutilisent des échos quand même, c'est assez notoire, hein, du Quatuor 7. Le Quatuor 7, donc premier thème s'en rapproche, le deuxième thème, ce thème rythmique également hein, dans le scherzo qui est là aussi qui est en deuxième position. Et puis alors là, on est seulement en 1811 en tout cas pour la composition et en 1814 pour la création. Et c'est déjà, comme on disait pour l'empereur, c'est déjà la fin d'une certaine manière de ce que Beethoven créera pour ces formes-là, puisque pour différentes raisons, mais la surdité est la principale, hein, puisque précisément en 1814, quand il va faire la création de ce trio, malheureusement il y a des gens comme Spohr, enfin des gens qui auront assisté à des répétitions au concert, qui seront absolument affligés de voir où en est arrivé Beethoven, tellement il est diminué par sa maladie. Donc, il renonce progressivement aux différentes formes. Il va encore écrire des grandes sonates pour piano, on va en parler, mais le trio, il s'arrête après ce magnifique, très équilibré. Il y a un très beau mouvement lent avec variation.
Donc, trio à l'archiduc. L'archiduc, c'est l'archiduc Rodolphe, qui était le plus jeune des fils de Léopold II, l'empereur d'Autriche de l'époque. Rodolphe qui fut l'élève de Beethoven, qui resta son ami et son protecteur fidèle.
Ah oui, tout à fait. Mais bon, ils étaient des nobles qui avaient une culture musicale et une pratique musicale tout à fait importante. Et c'est en ce sens qu'ils respectaient Beethoven, qui lui les respectait un peu moins en retour.
Alors là, il y avait des liens un peu filiaux, je pense, avec l'archiduc Rodolphe. Hein. Voilà, ce trio à l'archiduc est sans doute le plus célèbre et je crois le plus joué des 7 que Beethoven ait composé. Je vous propose de l'écouter maintenant. C'est le début du premier mouvement Allegro Moderato. Il est joué par le pianiste Wilhelm Kempf, le violoniste Henrik Zering et le violoncelliste Pierre Fournier. Le premier mouvement Allegro Moderato du 7e trio avec piano à l'archiduc de Beethoven, interprété par Wilhelm Kempf, Henrik Zering et Pierre Fournier. Alors ces années entre 1809 et 1812 sont celles de la composition de la 7e symphonie, mais aussi celles de nouveaux déboires amoureux, notamment avec l'échec d'un projet de mariage avec la pianiste et compositrice Thérèse Malfatti, qui pourrait être la dédicataire ou l'une des dédicataires de la fameuse lettre à Liszt. La situation financière de Beethoven devient aussi plus fragile, enfin tout ça débouche sur une crise en 1812, ouvrant une nouvelle période sombre de sa vie. Il rédige la lettre à l'immortel bien-aimé, fait la rencontre décevante de Goethe, et puis alors là, c'est la panne d'inspiration qui frappe le compositeur. Est-ce que vous avez une théorie sur ces un peu inexplicables années de stérilité ?
Alors heureusement, la panne n'est pas complètement totale. Bon, c'est vrai que l'une des premières explications, c'est qu'il a eu des années de grande production, effectivement, où il a beaucoup écrit de chefs-d'œuvre. Donc, il y a peut-être un phénomène de creux. Il y a aussi certainement des problèmes de santé. Alors, indépendamment de la surdité, hein, il y a plusieurs hypothèses sur la santé de Beethoven a toujours été assez mauvaise. Il y a peut-être des facteurs aussi psychosomatiques, mais en tout cas, voilà, des choses dues peut-être au plomb. On ne sait pas exactement à cause de l'ingestion de trop de vin au plomb, je ne sais pas. Enfin, il aurait eu une maladie lié au saturnisme. Puis alors les déboires amoureux aussi certainement. Bon, mais jusqu'en 1812, voilà, il écrit encore la symphonie 7 et la symphonie 8 ensemble. Il projette la symphonie 9, mais il s'arrête. Il s'arrête pas complètement. Il y a le cycle dont nous allons parler, hein,
la bien-aimée lointaine,
qui va faire partie de ces années-là. Il va aussi s'occuper.
Il y a les sonates pour violoncelle aussi.
Il y a les sonates pour violoncelle qui sont de très belles œuvres aussi.
4 et 5, ouais.
Voilà, il y a aussi l'occupation que lui prend la tutelle de son neveu.
Oui, parce qu'il perd son frère aussi
c'est
cette
important,
époque.
Hein, c'est important, c'est la mort de son frère.
Caspar Karl.
Bien-aimé Caspar Karl. Hein, donc,
1815,
Et puis donc, il essaie d'adopter son neveu, Karl.
Voilà.
Et il entre en conflit avec sa belle-sœur, qu'il considère comme étant inapte
à élever un jeune garçon.
Voilà, donc là, c'est vraiment un conflit familial qui l'affecte beaucoup. Hein.
Voilà, vous parliez de relations filiales avec l'archiduc Rodolphe. Là, il y a une question effectivement centrale aussi chez Beethoven, hein, qui n'aura pas eu d'enfant, qui a projeté un peu sur ce neveu, et ça va, disons, il y aura un épisode très sombre, puisque le neveu, à un moment, va faire une tentative de suicide, donc il y aura des batailles juridiques très très longues et coûteuses pour Beethoven, et donc ça le détourne un peu, peut-être.
Voilà, puis il va se retrouver aussi très très esselé à Vienne, hein, parce que beaucoup de ses amis sont partis.
Absolument,
bon, Metternich arrive au pouvoir. Et c'était pas un tendre, pour dire les choses gentiment. Voilà,
et puis il y a le goût italien qui commence à poindre avec les compositeurs italiens, les opéras, Rossini.
Il se sent...
Alors il a toujours senti, surtout depuis la symphonie héroïque, hein, le fossé entre lui et son public, mis à part évidemment ses bienfaiteurs, mais le grand public qui avait beaucoup de mal à le comprendre. Hein, quand il avait du succès, souvent c'était un succès de respect, un succès d'estime, et il avait une considération un petit peu abstraite, on va dire, mais...
La rencontre avec Goethe, je crois que Serge Chauzy voulait dire un petit mot là-dessus.
Oui, effectivement. Il admirait Goethe en tant que poète, mais il n'aimait pas trop. Il disait qu'il le trouvait un peu trop servile. Et notamment, il disait Goethe apprécie beaucoup trop l'air de cour, plus qu'il ne convient à un poète. Et effectivement, on raconte une anecdote. Au cours d'un séjour à Teplitz, en juillet 1812, Beethoven se promenait avec Goethe dans les jardins de Teplitz, qui est une station où on prend les eaux, et il croise la famille impériale. Goethe, immédiatement, se décoiffe, s'incline, Beethoven enfonce son chapeau sur sa tête et passe son chemin. Il ne leur dit rien. Et c'est à la suite qu'il dit que, bon, après tout, ce qu'il disait à propos de Lichnowsky, eh ben, il peut le répéter à propos de la famille impériale. Donc voilà.
Merci de nous avoir raconté cette anecdote assez éclairante. Alors, comme le disait Serge Krichevski, ces années sont aussi celles de la composition d'un cycle de 6 Lieder à la bien-aimée lointaine en 1816, un genre dont nous n'avions pas parlé jusqu'alors, bien que Beethoven ait composé d'autres mélodies auparavant, précisons-le. On va écouter le premier de ces Lieder à la bien-aimée lointaine, interprété par un chanteur qu'on aime bien et qu'on connaît bien à Toulouse, le baryton Matthias Goerne. Seufzer, sie verwehen, wenn immer noch le premier lied du cycle An die Ferne geliebte, à la bien-aimée lointaine, magnifiquement chanté par le grand baryton allemand Matthias Goerne. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'art de Beethoven dans ce registre du lied qu'il inaugure en quelque sorte?
Alors, il n'inaugure pas avec ce cycle, mais par contre, il inaugure...
Il a inauguré.
Voilà, il inaugure les cycles avec cette œuvre-là. Il a écrit quelques mélodies isolées auparavant, mais ça, c'est véritablement un cycle dans lequel les six mélodies ont un lien organique. Hein. C'est très rare de voir six mélodies qui s'enchaînent comme ça, sans interruption, sans pause, avec en plus des liens thématiques. Enfin, il y a une circularité entre le début et la fin. Il y a souvent des moments où le piano joue seul. On est très très loin, même des plus belles mélodies de Mozart, dans la conception. Hein. C'est un cycle qui lui a été commandé par le prince Lobkowitz, peut-être écrit en mémoire de la femme défunte du prince, mais peut-être aussi pour d'autres personnes auxquelles songeait Beethoven. C'est très probable qu'il y ait eu plusieurs sources d'inspiration. Voilà, c'est effectivement une œuvre qui ouvre tout grand et très vite sur les grands cycles schubertiens, les cycles de Schumann et de Brahms.
Alors, nous n'avons pas reparlé dans cette émission du genre sonate, très prolifique dans l'œuvre de Beethoven, entre autres pour le piano, évidemment. Les années 1817 à 1819, avec la composition d'une des plus célèbres, la 29e sonate pour piano, dite Hammerklavier, va nous en donner l'occasion. Vous tenez à revenir sur ce genre sonate chez Beethoven, Serge.
Alors, effectivement, le genre sonate, bon, Beethoven l'a décliné, hein, puisqu'il il a écrit une sonate pour corps également. Il a écrit 10 sonates pour violon, 5 pour violoncelle. Pour piano, hein, il connaissait très bien le clavier bien tempéré que certains ont appelé l'Ancien Testament. Et les 32 sonates de Beethoven, on les appelle le Nouveau Testament. Donc, en tout cas, des œuvres dans lesquelles il a expérimenté. Paradoxalement, la sonate Hammerklavier n'est pas la plus novatrice dans le sens formel. C'est-à-dire qu'en fait, elle a un cadre classique et il semble que Beethoven, à partir de ce moment-là, revienne de plus en plus au cadre classique, évidemment en forçant les proportions, le travail toujours très très important qu'il fait sur chaque œuvre, mais il retourne quand même à des référents classiques. Le genre sonate, il sera prolongé par tous ses grands successeurs, hein, par Schubert, Schumann, Brahms, et puis à côté, tous les grands compositeurs allemands. Ça aura été un véhicule pour sa pensée, donc la forme sonate dont nous parlions, qui est tout simplement la forme ternaire, avec une exposition, un développement, une réexposition, évidemment nourrit le genre sonate. Donc il faut bien différencier les deux, mais Beethoven aura utilisé toutes ses sonates pour piano et tous ses quatuors à cordes aussi et ses symphonies pour approfondir ce genre et cette forme.
Alors celle-ci est particulièrement difficile à jouer. Hein.
Oui,
sa réputation, puis elle est très longue. Je crois que c'est la plus longue des partitions pour piano solo.
Certainement, et puis sûrement ça montre l'intérêt que Beethoven portait aux instruments de l'époque, puisque le Hammerklavier, donc clavier à marteau, c'est un nouveau piano qu'il a acquis et pour lequel il a considéré qu'il allait écrire autrement.
Donc. Voilà, alors un piano effectivement à mécanique viennoise, un piano à mécanique anglaise, et on dit qu'il a vraiment insisté sur le nom en allemand pour différencier de pianoforte, mais c'est l'équivalent allemand du pianoforte. Il voulait que ce soit l'instrument en allemand.
Eh bien, c'est le moment de la faire entendre, cette 29e sonate pour piano opus 106, l'Hammerklavier, dont le grand pianiste italien Ferruccio Buzzoni disait que la vie d'un homme est malheureusement beaucoup trop courte pour apprendre l'opus 106. On va l'écouter dans une version du pianiste ukrainien Emil Gilels, c'est le premier mouvement Allegro. Thank you. Le premier mouvement Allegro de la 29e sonate pour piano opus 106, Hammerklavier de Beethoven, interprété par Emil Gilels. Voilà, cette pièce auquel tous les grands pianistes se sont frottés et qui inaugure le cycle des grandes sonates de la fin, les opus 109, 110 et 111, dont nous parlerons lors de la prochaine et dernière émission consacrée à Beethoven, parce que nous devons conclure ce numéro, le deuxième du cycle consacré au grand compositeur allemand pour le 250e anniversaire de sa naissance. Tous mes remerciements à vous deux, Serge Chosy et Serge Krzyzewski, vous fûtes encore très brillants, parce que croyez-moi, ce n'est pas facile de parler de la musique d'un génie comme Ludwig von Beethoven, pas facile non plus de faire un choix dans son œuvre pour illustrer la période que nous traitons et pour illustrer notre propos. Les pièces et les extraits que nous vous faisons entendre relèvent forcément de l'arbitraire. Je sais qu'on en laisse deux côtés qui mériteraient tout autant d'être diffusés. J'espère que ce n'est pas trop frustrant quand même. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité à cette émission. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.